journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une trahison à la une, c'est l'affaire des sous-marins qui jettent un froid glacial entre la France et les États-Unis. Pour marquer le coup, la France annule une soirée de gala dans son ambassade à Washington. Condamné au réalisme, Joe Biden veut contrer la Chine et c'est tout ce qui compte pour lui désormais. On verra quel est le regard de votre invité tout à l'heure, Nicolas, sur ce grand face-à-face.
Il s'agit de Jean-Marie Guénot, l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Aujourd'hui professeur à Columbia University à New York, il publie un livre passionnant intitulé « Le premier 21e siècle, de la globalisation à l'émiettement du monde ». C'est chez Flammarion. Intervenez évidemment 01 45 24 7000.
Quand les 2010 en prennent pour leur grade, c'est une campagne contre les enfants de 6e qui agite les réseaux sociaux, suffisamment prise au sérieux pour que Jean-Michel Blanquer appelle au calme. Explication à suivre. Dans ce journal aussi, à quand la fin du pass sanitaire? Sans doute pas le 15 novembre. Le gouvernement travaille à sa prolongation au cas où la situation ne s'améliore pas suffisamment. Une enquête sur les dessous des finances de la campagne d'Éric Zemmour. On vous révélera qui s'en occupe dans l'ombre. Et puis le TGV fête ses 40 ans. Il a changé la France et ça ne va pas s'arrêter.
France Inter.
Quand un ami vous met un coup dans le dos, Paris ne décolère pas contre Washington, qui a poussé l'Australie à renoncer à sa commande de sous-marins passés à la France pour lui vendre les siens et accroître sa puissance contre la Chine. La France, outragée par le comportement de Joe Biden, a donc décidé d'annuler un grand raout dans son ambassade à Washington. Il n'y aura pas de soirée de gala ce soir pour célébrer une victoire de la flotte française. Ça ne s'invente pas. Lors de la guerre d'indépendance, Sébastien Paour.
L'événement devait se tenir à la résidence de l'ambassadeur à Washington. Pour l'occasion, un sous-marin français arrive à Norfolk. Une frégate est attendue lundi au port de Baltimore, au nord-est de la capitale fédérale, au fond de la baie de Chesapeake. C'est l'un des endroits où la marine française a prêté main forte aux Américains contre les Anglais pendant la guerre d'indépendance, avec une bataille navale décisive le 5 septembre 1781. Même le chef d'état-major de la marine devait faire le déplacement. Voilure réduite, le gala du 240e anniversaire de la bataille des Capes de Virginie n'aura pas lieu ce soir. Pas question de célébrer l'amitié franco-américaine alors que l'administration Biden fait capoter, sans prévenir, un contrat de vente de sous-marins. Un choc, dit-on de sources diplomatiques, une question de confiance qu'il faudra retrouver. En attendant, les diplomates et lobbyistes conviés ce soir ont bien reçu l'avis d'annulation. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Alors côté américain, le principe est le suivant. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et tant pis pour la France. Dommage collatéral du grand affrontement entre les États-Unis et la Chine. Écoutez sur cette affaire l'analyse d'un homme qui connaît parfaitement la diplomatie américaine, c'est Gérard Araud, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis.
Les États-Unis ont pesé de tout leur poids et nous ont chassés du marché et de leur périmètre. En gros, ils nous disent honnêtement que les Européens viennent dans l'Indo-Pacifique, ça nous est totalement indifférent. C'est notre zone et si vous y venez comme étant nos supplétifs. Les États-Unis veulent en faire une sorte de front entre deux camps, la Chine et le reste du monde. Cette confrontation n'est pas la confrontation de la France. Nous sommes évidemment plus proches des États-Unis, plus proches des démocraties que de la dictature chinoise, mais cela ne veut pas dire que être les alliés, ça ne veut pas dire être alignés. Le général de Gaulle, tout en étant un bon allié, se rendait à Moscou et à l'époque l'URSS était une menace beaucoup plus réelle sur l'Europe que ne l'est aujourd'hui la Chine. Je crois que c'est l'occasion pour les Européens de définir une politique chinoise indépendante.
Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, joint par Olivier Poujade. En France, le nouveau calcul des indemnités chômage entrera bien en vigueur le 1er octobre. Le gouvernement a envoyé son décret aux syndicats qui comptent bien de nouveau l'attaquer. Avec cette réforme, ceux qui alternent période de travail et chômage seront moins bien indemnisés. Et est-ce pour faire passer la pilule? La ministre du Travail annonce dans le même temps un plan pour les chômeurs de longue durée avec financement des entreprises qui formeront des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an. Autre annonce hier soir, elle pleuve en ce moment. Les sages-femmes qui travaillent à l'hôpital toucheront 183 euros net de plus à partir de janvier. Un rattrapage alors qu'elles n'étaient pas concernées par les augmentations accordées au personnel hospitalier fin 2020.
Il est 8h05, mais compte-t-il contre les 2010?
Une campagne contre les enfants de 6e agite les réseaux sociaux et les cours de récré. En cette rentrée, suffisamment prise au sérieux pour que Jean-Michel Blanquer appelle au calme.
Chères collégiennes, chers collégiens, je vois qu'il y a un mouvement qui monte qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e et à embêter les élèves nés en 2010. C'est évidemment complètement stupide, c'est contraire à nos valeurs. Rappelez-vous, quand vous étiez sixième vous-même, c'était spécial d'arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Eh bien, soyez bienveillants à votre tour et dites à tous les élèves nés en 2010, dites à tous les élèves de sixième, bienvenue au collège.
Bienvenue au collège, ça n'est pas l'ambiance apparemment d'après certains élèves, parfois brimés en raison de leur année de naissance. Arro sur les 2010, Alain Gastal a tenté de comprendre ce phénomène irrationnel.
Achille est né en 2010, il vient d'entrer au collège dans l'ouest de la France, pas encore branché réseaux sociaux. Le jeune homme est tout de même tombé sur le phénomène anti-2010.
Copine, quelques jours avant la rentrée, on s'était vu, et elle me dit, oh là là, il y a plein de TikTok qui font, oh les 2000, attention, les 2010 arrivent au collège. Puis moi-même étais interpellée par des élèves de 3e. Oh, t'es en 2010 toi? Puis voilà, ils sont partis. Clairement, je m'en fiche, je me sens pas harcelée non plus. C'est juste, je comprends pas. Encore, il y aurait une raison. Mais là, ils ont aucune raison.
Achille a raison, rien ne justifie cette hostilité qui vient du jeu Fortnite, précise Yasmine Biono de l'association NetRespect.
Dans le monde des joueurs, il faut savoir que les plus grands régule les parties et on a des gamers qui décident de donner des leçons. C'est comme ça qu'on a créé une réputation sur cette année de naissance, 2010 égale cancer.
Depuis, les groupes TikTok et Twitter se multiplient, ligue, brigade anti-2010, le langage peut être insultant, menaçant, guerrier. Toute dérive vers le harcèlement doit être signalée, précise Jean-Pierre Bellon du groupe d'experts anti-harcèlement scolaire.
La priorité, c'est de faire en sorte que tous les élèves qui sont victimes de ce genre de choses trouvent au sein de l'école le soutien d'un adulte protecteur qui sera là pour les rassurer, pour les sécuriser.
Et tous les établissements scolaires sont normalement pourvus d'un dispositif d'aide aux élèves victimes.
Et les 2010, les pauvres, pourront être vaccinés l'an prochain quand ils auront 12 ans. Ils ne sont donc pas encore concernés par le pass sanitaire, qui ne s'appliquait pas non plus aux jeunes adhérents des clubs de sport. Mais ça va changer. À partir du 30 septembre, il faudra bien montrer un pass, ce qui va compliquer la pratique sportive et la vie des associations. Exemple en Seine-Saint-Denis, où seulement 53% des 12-17 ans ont reçu au moins une première dose, avec Camille Huppenoir.
La SGB, Association Sportive et Gymnique de Bagnolet, a confié le contrôle du pass sanitaire à ses 150 bénévoles et ça n'a pas été simple à mettre en place. Jean-Claude Peignet, le coordinateur de l'association.
On se prend un petit peu de temps et on explique gentiment aux différentes personnes, parfois relativement âgées, pour qui c'est déjà pas facile, de comment procéder pour contrôler ça. Et ça démultiplie vraiment nos rôles, nos tâches et les questionnements.
Questionnements notamment sur les 12-17 ans qui eux aussi devront bientôt présenter un pass sanitaire. Pour l'instant, la coprésidente de la SGB, Sylvie Tournier, refuse d'encaisser les adhésions des ados non vaccinés.
On ne peut pour l'instant pas s'engager à prendre des adhésions pour ces 12-17 ans si on ne peut pas les accueillir après.
Même crainte à l'Athletic Club de Bobigny. Dans la section basket, 21 jeunes de 14 à 17 ans viennent de reprendre les entraînements, mais leur nombre pourrait chuter. Nassim, 16 ans, se prépare à abandonner le basket à cause du pass sanitaire.
Franchement, j'aime le sport et je peux pas me faire vacciner parce que j'ai peur un peu. Du coup, c'est compliqué.
Nassim n'a pas encore pris sa licence. Il préfère attendre le mois de novembre et la fin programmée du pass sanitaire.
En Italie, c'est vacciné ou testé qu'il faudra aller travailler à partir du 15 octobre. Pass sanitaire obligatoire pour tous les travailleurs du public et du privé. Et sanctions à la clé pour les contrevenants sans aller jusqu'au licenciement. En Outre-mer, le confinement se desserre en Polynésie française et en Martinique à partir de lundi. Mais les couvre-feux vont rester en vigueur. Et puis dans les Pyrénées-Atlantiques, les touristes sont partis et les habitants des communes du littoral vont pouvoir tomber le masque dans la rue. En tournée, à partir de ce soir, à Toulon, Éric Zemmour entamera la promotion de son livre, presque un programme pour celui qui n'est toujours pas officiellement candidat, mais dont la campagne se prépare activement. Nous avons voulu savoir comment. Bonjour Philippe Randé.
Bonjour.
Membre de la cellule Investigation de Radio France, vous vous êtes intéressé aux finances du presque candidat, très Startup Nation, finalement, avec de jeunes businessmen qui œuvrent en toute discrétion, au premier rang desquels un nommé Julien Madard.
Oui, Julien Madard, 32 ans, et déjà un CV bien fourni, jugé plutôt un an chez Rothschild, des études à Columbia à New York, et 7 millions d'euros levés il y a 2 ans au profit de Check My Guest, une sorte d'Airbnb à la française dont il est devenu directeur général. Julien Madard, qui selon un proche d'Éric Zemmour, est devenu en quelques mois le référent du volet financement. Cet homme de réseau souhaitait rester dans l'ombre, mais c'est la boîte aux lettres de l'association des amis de Zemmour qui l'a trahi. C'est là que sont déposés les dons en chèque, dans le 10e arrondissement de Paris. Paris. Or, cette boîte aux lettres dépend d'un appartement dont Julien Madard est propriétaire, appartement qui est loué à des touristes par sa start-up Check My Guest.
Julien Madard qui n'est pas le seul à s'occuper des finances d'Éric Zemmour.
Non, il nous a expliqué qu'il travaille avec Jonathan Nadler, une information qui nous a d'ailleurs été confirmée par un autre proche d'Éric Zemmour qui nous a précisé que les deux hommes se sont répartis les rôles. Julien Madard s'occupe du financement et des donateurs. Jonathan Nadler planche, lui, sur le programme économique d'Éric Zemmour. Et vous allez voir qu'il y a de nombreux points communs entre eux. Jonathan Nadler, lui aussi, est trentenaire, lui aussi passé brièvement chez Rothschild. Il travaille aujourd'hui au sein de la banque d'affaires américaine JP Morgan.
Et Philippe, ce sont des profils qui nous rappellent quelque chose.
Eh bien oui, jeunesse, levée de fonds, start-up, banque d'affaires. Forcément, ça fait penser à certains lieutenants d'Emmanuel Macron en 2017. Une génération 2.0 en costume et Stan Smith qui a donc fait école et dont les méthodes sont désormais aussi mises au service d'Éric Zemmour.
Philippe Randet de la cellule investigation de Radio France, merci. Comme prévu, Olivier Faure a été largement réélu à la tête du Parti Socialiste. Il n'y avait qu'une candidate en face de lui, Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin. Le résultat doit encore être ratifié lors du congrès du PS ce week-end à Villeurbanne. En Russie, le scrutin va durer 3 jours. Des élections législatives marquées par l'éviction des partisans d'Alexei Navalny, mais aussi par la pression exercée sur les médias d'opposition. Jean-Didier Revoin, classé agent de l'étranger par la justice russe.
Cette appellation très péjorative, héritée de l'Union soviétique, fait fuir les annonceurs et met en difficulté la presse d'opposition indépendante. Pour Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou, c'est le signe que le pouvoir est fébrile.
Le cap a été pris de balayer, de mettre totalement hors jeu l'opposition hors système, Navalny et tout l'écosystème ou l'infosystème attenant. Et ça, c'est mis en œuvre de manière systématique, implacable.
La presse contestataire mise sous pression, des candidats soigneusement choisis par l'administration présidentielle. Le retrait de Vladimir Poutine, dont personne ne sait quand il adviendra, plane déjà sur cette élection. Et pour la politologue Yekaterina Shulman, il s'agit d'éviter le précédent biélorusse où la population n'a pas reconnu le résultat de la présidentielle.
Le résultat doit être accepté par la société. Pas comme un résultat juste et honnête, mais comme un résultat acceptable.
Le problème des médias d'opposition, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de faire une élection, et ça, le pouvoir l'a compris, raison pour laquelle il se permet de les écarter, tout comme certains candidats trop charismatiques. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
À quoi servent nos épluchures, Nicolas? C'est une bonne question quand on sait qu'à partir de 2024, il faudra trier ces biodéchets pour alléger la poubelle noire. C'est une réglementation européenne et un gros enjeu puisque les restes alimentaires représentent un tiers des ordures ménagères. On pourrait s'en servir, pourquoi pas, pour faire rouler des bus, mais oui. Et la plus grande usine d'Île-de-France a été inaugurée hier à Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne. Une usine de retraitement des biodéchets. C'est un reportage de Célia Quéré.
Des invendus de supermarchés, des restes de cantines, mais également des fibres, de papier ou même du fumier venant de centres équestres. 25 000 tonnes de déchets arrivent ici dans cette usine. Ils sont stockés avant d'être transformés en biogaz et en engrais. Pierre de Froidefond copréside l'entreprise CVE qui produit ce gaz.
Vous pensez au yaourt par exemple, au fromage blanc, à ces produits-là. Ils sont déconditionnés, on enlève l'emballage et ensuite ils sont mixés et ils donnent une soupe de biodéchets qui vient être incorporé ici.
Et une fois que les biodéchets sont dégradés dans de grandes cuves, à la sortie, le gaz produit est injecté dans le réseau. Il peut alimenter 4000 foyers ou faire rouler une centaine de bus. Pour Raphaël Clostre de l'agence Île-de-France Énergie qui dépend de la région, l'intérêt de ce tri est à la fois d'incinérer moins de déchets et de produire un gaz qui n'est pas fossile.
On injecte ce biogaz dans le réseau et derrière, il va servir surtout à proximité. Et de même, quand on va ensuite mettre un peu de gaz dans un bus un peu plus loin, une petite partie de ce gaz reviendra d'ici.
Mais en 2024, les particuliers devront tous trier leurs biodéchets. La filière a très peu de temps pour se préparer, admet Hervé Lucas, coprésident de CVE.
La filière est insuffisante aujourd'hui pour traiter tous les biodéchets, absolument. Il reste 2 ans. On a besoin du soutien de l'État, des collectivités. On est déjà en retard, en fait.
Selon l'ADEME, moins de 10% de la population a déjà une solution convenable pour trier et recycler ses biodéchets.
Célia Quiré. Et avant le TGV, qui ne roule pas aux biodéchets, mais à l'électricité, avant le TGV pour rallier Paris à Marseille, Marseille. On prenait le train Mistral et le voyage, on l'a oublié, durait 6h40. Aujourd'hui, c'est un trajet de 3h. Le TGV, qui fête ses 40 ans cette année, a rétréci la carte de France. Pour son anniversaire, Emmanuel Macron dévoilera aujourd'hui la maquette de son prochain modèle, Gare de Lyon à Paris, car l'aventure continue. La saga du TGV, c'est un récit de Maxime Debs.
C'est fait, le train à grande vitesse a été officiellement inauguré aujourd'hui par M. François Mitterrand.
Le TGV signe que la France entend demeurer une grande nation innovatrice.
D'entrée, le TGV bat ses premiers records, les Français, eux, gagnent du temps.
On part, on arrive. Des centaines de kilomètres parcourus à une vitesse que les plus audacieux des premiers constructeurs n'auraient osé imaginer.
Jacques Ruiz, chemineur retraité, s'en souvient, il avait assisté aux premiers essais.
En 1980, le chef de projet nous a dit, voilà ce qu'on projette, de rouler, en théorie, atteindre 410 km/h. Là, vous savez, vous restez bouche bée, et on l'a quand même réalisé.
Ça n'empêchera pas certains de faire remarquer qu'une réalisation comme le TGV l'a englouti beaucoup d'argent.
Des milliards en travaux, suscitant la polémique aussi, car très vite après l'investissement, vient la question du rendement.
Réservation plus supplément, le billet peut coûter jusqu'à 60% plus cher. Réponse du président de la SNCF, le temps, c'est de l'argent, chacun y trouvera son compte.
Pas tous en réalité, encore aujourd'hui, sujet d'actualité.
Il y a beaucoup de Français qui trouvent que les billets sont trop chers.
2017, Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, met un léger frein au TGV.
On doit sortir d'une France à deux vitesses, dans laquelle on construit beaucoup de lignes à grande vitesse.
Mais signe qu'en la matière, tout peut aller très vite. Jean Castex remet récemment les projets LGV Toulouse-Bordeaux et Perpignan-Montpellier sur les rails. Signe que ce TGV-là, jeune quadra, a de quoi rouler des mécaniques encore quelques années.
Maxime Debs, enfin si ça vous dit, tout à l'heure, Nicolas.
Je donne rendez-vous à la gare de Lyon, sous la grande horloge, tu sais, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri, la
belle. On y va
pour oui, on vous y retrouve avec Pierre Aski. Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Stéphanie, la journée est calme.
Et oui, entre la Normandie, les Hauts-de-France et les Ardennes, le réveil est assez gris, mais le ciel se dégage en cours de journée et reste sec. Les éclaircies feront même de belles apparitions entre la Bretagne, la Vendée, la région parisienne et la Lorraine, l'Alsace aussi. Après dissipation, évidemment, des brouillards matinaux. Il faudra en profiter car une nouvelle perturbation va toucher la pointe bretonne dès la mi-journée, lâchant de bonnes pluies et du vent. En descendant vers le sud-ouest, le massif central, les Alpes et le Jura, les nuages du matin n'auront pas trop de mal à s'évacuer en pleine. En revanche, en montagne, quelques averses pourraient résister sous les nuages les plus dodus, lâchant éventuellement un orage sur le sud des Alpes. Finalement, c'est en Méditerranée que le soleil reste généreux à la faveur d'un vent qui souffle jusqu'à 50 km par heure.
Journée calme, température stable.
C'est ça, si le réveil est frais sur un grand quart nord-est avec 8, 13 degrés, il est plus clément en général, 9 à 15 degrés, même 12 sur le pourtour méditerranéen, 16 à 20 degrés. Cet après-midi, pas de grand changement donc par rapport à hier, 20 à 25 degrés, 24 à 28 sur le pourtour méditerranéen, vous pourrez compter sur 21 degrés à Cherbourg, 23 à Paris, 25 à Bordeaux et 27 à Avignon.
Stéphanie Fromentin, merci et à tout à l'heure. Il est 8h18, vous écoutez France Inter, Géopolitique.